Lizzie présente. Mise en scène de Daniel Steele. Lue par Sandy Masson. À mes chers et merveilleux enfants, Bitty, Trevor, Todd, Nick, Samantha, Victoria, Vanessa, Max et Zara. Que votre vie soit pleine de nouvelles aventures, de nouveaux chapitres, de nouveaux départs, chaque chapitre surpassant le précédent. Donnez-vous mutuellement de la force, souvenez-vous des bons moments et célébrez la vie. Je vous aime de tout mon cœur et de toute mon âme. Maman, Daniel Steele. Chapitre 1. Les échos de la fête de Noël parvenaient à Kate Whittier par la porte entrouverte de son bureau. Concentrée sur son ordinateur, elle n'y prêtait pas attention, tout à son souci de boucler avant la coupure de fin d'année. On était vendredi après-midi, plus que 3 jours avant Noël, et la rédaction de Woman's Life Magazine s'absenterait ensuite jusqu'au nouvel an. Kate voulait finir sa rubrique avant de partir, car il lui restait beaucoup à faire jusqu'à l'arrivée dimanche matin de ses enfants, qui passeraient Noël avec elle. Elle se focalisait pour l'instant sur l'article destiné au numéro de mars, mais qui aurait aussi bien pu sortir un autre mois, vu qu'elle choisissait généralement des sujets susceptibles d'intéresser toutes les femmes. Les difficultés qu'elles pouvaient rencontrer à la maison, dans leur couple, avec leurs enfants ou au travail. Sa rubrique, Confiez-vous à Kate, existait depuis 19 ans, déjà. Quand il s'agissait de questions intimes sensibles, elle répondait directement. Sinon, elle incluait les questions de portée plus générale dans sa chronique. Souvent citée comme experte de la condition féminine, elle était régulièrement invitée à participer à des émissions télévisées sur toutes les grandes chaînes nationales. Titulaire d'un master de journalisme de Columbia, elle avait, au bout de quelques années, repris des études de psychologie à l'Université de New York, afin de gagner en crédibilité, ce qui s'était révélé bien utile. Désormais, Confiez-vous à Kate tenait une place de choix dans le magazine, et il arrivait fréquemment que l'on achète Woman's Life avant tout pour la lire. Sa rubrique des petites misères, comme on l'appelait dans un premier temps en conférence de rédaction, était devenue un énorme succès et faisait maintenant référence, tout comme son auteur. Cerise sur le gâteau, elle adorait son travail, qu'elle trouvait si gratifiant. Ces dernières années, elle avait ajouté à son répertoire un blog sur lequel elle postait des extraits de sa rubrique. Avec des milliers de followers sur Twitter et Facebook, elle avait envisagé un temps d'écrire un ouvrage de développement personnel, mais il était resté à l'état de projet. Elle était bien consciente que les conseils qu'elle prodiguait, souvent sur des sujets délicats, auraient pu donner lieu à des poursuites judiciaires contre elle, ou le journal pour pratique illégale de la médecine. C'est pourquoi elle veillait à apporter des réponses intelligentes, rédigées avec le plus grand soin, raisonnables et sages. Le genre de recommandations que l'on attendrait d'une mère attentive et sensée. Rôle qu'elle jouait d'ailleurs auprès de ses 3 enfants, aujourd'hui adultes. Ils étaient très jeunes quand elle avait commencé sa carrière chez Woman's Life. À l'époque, son ambition la portait davantage vers Harper's Bazaar ou Vogue, et elle avait accepté de s'occuper de la rubrique du courrier des lecteurs de Woman's Life dans l'espoir d'un poste plus glamour ailleurs. Cette rubrique lui offrait simplement le moyen de mettre un pied dans l'univers de la presse féminine. Cependant, contre toute attente, elle y avait découvert sa voix et ses points forts, et surtout, elle était tombée amoureuse de son travail. De plus, l'organisation du poste était idéale, car elle pouvait en effectuer une bonne partie à la maison. Aujourd'hui, presque tout se faisait par e-mail. Sa présence n'étant requise au journal que pour les conférences de rédaction et, au début, le bouclage des articles. Ce fonctionnement lui avait permis de passer beaucoup de temps avec ses enfants. Par ailleurs, elle avait elle-même affronté nombre de problèmes qui lui étaient confiés. Ses fans étaient légion, et au magazine, on n'avait pas tardé à se rendre compte qu'elle était pour eux une vraie mine d'or. Kate était libre de faire ce qu'elle voulait chez Woman's Life. Il se fiait à son instinct, qui ne l'avait jamais trompé. Caitlin Whittier était issue d'une vieille famille aristocratique de New York, même si elle n'en faisait pas état et n'en avait jamais tiré parti. Son éducation avait été suffisamment originale pour lui donner une certaine ouverture d'esprit, et ce, dès son plus jeune âge. Les problèmes familiaux, tout comme les vicissitudes de la nature humaine, les déceptions et les dangers dont même le sang bleu ne protège pas, rien de cela ne lui était étranger. Elle portait très bien ses 54 ans, avec ses cheveux roux et ses yeux verts. Son style vestimentaire était simple, mais bien à elle. Elle était franche et ne craignait pas d'exprimer ses opinions au risque de déplaire. Et elle était toujours prête à se battre pour ses convictions. Elle alliait calme et courage, attentionnée envers son public et dévouée à ses enfants. Sa modestie cachait une grande force. En 19 ans, elle était passée au travers de plusieurs changements de direction, pour la simple raison qu'elle se concentrait sur sa rubrique et n'entrait jamais dans aucun jeu politique. Cette attitude lui avait gagné le respect de ses supérieurs. Elle était unique, tout comme sa chronique, que ses collègues adoraient lire, surpris d'y retrouver nombre de situations difficiles qu'ils connaissaient eux-mêmes. Elle avait une passion pour les gens, les rapports qu'ils entretenaient entre eux, les liens qui les unissaient, et elle en parlait avec une éloquence teintée ici et là d'une touche d'humour. Ses mots trouvaient un écho chez toutes ses lectrices.
« Toujours au travail ?»
lança Carmen Smith en passant la tête par la porte. D'origine hispanique, elle était née à New York et avait connu la gloire comme top modèle pendant une dizaine d'années avant d'épouser un photographe britannique dont elle était tombée follement amoureuse lors d'un shooting. Leur mariage tenait toujours, en dépit des turbulences et de plusieurs séparations. Carmen s'occupait aujourd'hui des articles beauté du magazine. Elle avait quelques années de moins que Kate et elles étaient bonnes amies au journal. Au dehors, cependant, elle menait des vies très différentes. Carmen fréquentait des cercles pseudo-artistiques plutôt m'as-tu vu.
Pourquoi je ne suis pas surprise? Comme je ne t'ai pas vu trinquer avec les autres, je me suis doutée que tu serais ici.
Je ne peux pas me permettre de boire, dit Kate dans un grand sourire tout en vérifiant la ponctuation de son texte. Elle répondait à une femme de l'Iowa, victime de harcèlement moral de la part de son mari. Bien qu'elle eût inclus ses recommandations dans la rubrique, Kate avait pris le temps de répondre personnellement à cette lectrice, afin qu'elle n'ait pas à attendre 3 mois ses conseils. Elle lui suggérait de consulter un avocat, ainsi que son médecin, et de confier à ses enfants adultes la vérité sur ce que son mari lui faisait subir. La maltraitance était un sujet délicat, que Kate arborait toujours avec le plus grand soin. « Depuis que je t'ai servi de cobaye pour ta mésothérapie faciale, j'ai dû perdre des neurones au passage et je suis obligée d'arrêter de boire pour compenser », dit-elle. Son amie éclata de rire et lui lança un regard contrit.
« Je sais bien, ce traitement m'a donné une migraine carabinée. En plus, ils ont retiré la machine du marché le mois dernier. Mais cela valait la peine d'essayer. »
Les deux femmes avaient conclu un pacte 10 ans plus tôt, à l'occasion des 40 ans de Carmen. Ne jamais recourir à la chirurgie esthétique. Jusqu'à présent, elle l'avait respecté, même si Kate accusait Carmen de tricher avec ses injections de Botox.
Cela dit, tu n'as pas besoin de ça, reprit Carmen.
Tu sais que je te détesterais si on n'était pas amis. Ma pommade devrait me dispenser de ce genre de soins. Pourtant, je commence à ressembler à mon grand-père de 97 ans. Toi, tu es la seule rousse que je connaisse qui ait une peau lisse, sans une ride, et tu n'utilises même pas de crème hydratante. Tu me dégoûtes.
Viens donc contempler les autres en train de se pinter autour du saladier de punch. Tu finiras ta rubrique plus tard.
C'est fait,
dit Kate en appuyant sur la touche « Envoi » à destination du rédacteur en chef. Elle fit pivoter son siège pour faire face à son amie.
Je dois encore acheter un sapin, l'installer et le décorer. Je n'ai pas eu le temps de m'en occuper le week-end dernier et les enfants arrivent dimanche. Je n'ai que ce soir et demain pour sortir les décorations et emballer les cadeaux.
Tu attends qui ?
Tom et Steph. Carmen n'avait pas d'enfants, par choix. Elle disait en avoir assez d'un avec son mari, point trop n'en fallait. Pour Kate, c'était tout le contraire. Ses enfants avaient toujours été d'une importance vitale pour elle, le centre de son univers quand ils étaient petits. L'aîné, Tom, était plus traditionnel que ses sœurs, et son but dans la vie avait toujours été de réussir dans les affaires. Il avait rencontré sa femme pendant leurs études de commerce à Wharton et ils s'étaient mariés jeunes.